que le Père Céleste a nous voir.
Car lorsque Dieu te voit, c'est une grâce immense d'être vu par celui qui est assis sur le trône très élevé. Pendant que tes deux mains sont levées vers le ciel, en signe d'humilité et d'abandon total dans la présence de Dieu, laisse ton âme soupirer après cette grâce qui est rattachée à ta naissance. Laisse l'Esprit de Dieu permettre à ta vie de sortir de l'eau. On t'a étouffé en empêchant ta tête de sortir de l'eau. Et tu vis une vie étouffée. L'eau n'est pas ton milieu naturel. Alors, tu ne peux pas évoluer dans ce milieu-là. C'est pourquoi tu te débats. Parce que tu es dans un milieu qui n'est pas ton milieu. Tu te débats. Pendant que ton domaine sont levés vers le ciel, laisse ton cœur soupirer. Après la délivrance, il veut te faire sortir de cette eau. Afin que tu sois dans ton milieu. Afin que tu marches sur la terre qui est ton milieu naturel et que cette terre te donne les meilleures productions et que le ciel s'ouvre sur toi et que pleuve en abondance la rosée du ciel. Cette rosée qui permettra tes activités, qui permettra à ta vie d'être épanouie, qui permettra à ton corps de se sentir à l'aise, qui permettra à ton esprit troublé de trouver la tranquillité, qui permettra, oui, à ton entourage de reconnaître la suprématie et la bonté de Dieu dans ta vie, qui permettra à ceux et qui t'ont vu, oui, te débattre dans cette eau, te débattre parce que étouffé, te débattre parce que ne sachant où mettre la tête, ceux qui se sont moqués de toi, lorsqu'ils te verront évoluer dans ton milieu naturel, épanoui, être dans la joie et dans l'allégresse, ils sauront qu'un jour Dieu avait destiné t'envoyer sur la terre pour glorifier son nom au travers du canal que tu es. La suprématie et la bonté du Seigneur. Nos mains sont des signaux qui montent jusqu'au ciel pour dire au Seigneur que nous sommes là. Nous sommes là et nous ne voulons pas rentrer dans l'année qui s'annonce telle que nous sommes. Nous ne voulons pas rentrer dans cette année et vivre la même réalité que nous avons vécue cette année. Papa, n'es-tu pas un Dieu de compassion? Alors que tes deux mains sont levées vers le ciel, tes mains pleurent pour toi, tes mains parlent pour toi, tes mains expriment à ce que ton cœur ressent. Papa, n'es-tu pas le Dieu de compassion? N'es-tu pas le Dieu d'amour, papa? Vas-tu permettre que je vive la même réalité? Oui, vas-tu permettre que l'on rit de moi, l'homme indexe, l'homme me montre du doigt? Jusqu'à quand cela va prendre fin, papa? Oh, jusqu'à quand? Alors que tes mains sont levées vers le ciel, tes mains expriment tes pleurs, tes mains expriment que tu es là ce matin. Quelle présence du Saint-Esprit! L'agneau s'installe au milieu de nous. Pendant que Jean pleurait, l'ange lui dit, ne pleure pas, parce que celui que tu vois assis sur le trône a été jugé digne de rompre tes liens, Jean, de délivrer ta vie de la pauvreté, Jean. Il a été jugé digne de te donner ce que tu cherches dans l'administration, de te donner l'activité que tu cherches. Il a été jugé digne de restaurer ta vie et de rétablir ce que tu as perdu, ce que l'ennemi t'a volé, ce que les sorciers t'ont pris. Il est digne de te redonner cette grâce-là. J'en ne pleure plus, car l'agneau que tu vois ici, il est digne de te sortir du piège de la maladie, de l'oppression démoniaque et satanique. L'agneau est dit. C'est celui-là que nous voulons honorer ce matin par nos acclamations. Nous voulons l'honorer parce qu'il est digne. L'agneau est digne. Toto bosse qui n'a pas papa. Dans cet esprit d'adoration, prenez avec moi vos Bibles. D'apporter deux messages ce matin. Vous qui n'étiez pas là hier, Marc au chapitre 2. Nous allons parler des quatre porteurs de la tragédie. Les quatre porteurs de la tragédie. Marc chapitre 2, au verset 1. Les quatre porteurs de la tragédie. Vous avez trouvé? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes, comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule. Il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendit par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » On va s'arrêter là. Alléluia. Lève la main droite et dis avec moi, « Seigneur, dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. » La tragédie dans la vie d'une personne est la matière première que Dieu dispose pour cette personne-là afin de produire le miracle dans sa vie. La tragédie, c'est tout ce qui fait qu'on pleure, tout ce qui fait qu'on est soucieux. La tragédie, c'est tout ce qui fait que l'enfant du Seigneur ou l'individu se sent abandonné. Il pense qu'il est seul sur cette terre. Il pense que le ciel même est tombé sur sa tête. Il a l'impression qu'il est abandonné, incompris. C'est ça la tragédie. La tragédie, c'est ce qui nous fait pleurer, nous donne l'insomnie, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à être épanoui, on n'arrive pas même à manger. La nourriture est amère dans notre bouche lorsqu'on mange. C'est ça la tragédie. La tragédie, c'est ce qui fait que tu es là et ton cœur se met à battre. Ton cœur se met à battre tout seul. Tu as l'impression qu'un danger va t'arriver. Tu as peur à cause de ce que tu es dans l'incertitude. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tes activités ne voient pas l'épanouissement. Ton travail, tu n'arrives pas à être épanoui. Tu n'arrives pas à gérer ton salaire et tu pleures. Quand les factures arrivent, même quand tu pars ouvrir ta boîte à lettres, ton cœur se met à battre parce que tu ne sais pas quelle nouvelle encore elle viendra. Lorsque le téléphone sonne et tu as peur de répondre parce que tu ne sais pas quelle nouvelle qu'on va t'apprendre derrière le fil. Alléluia! C'est ça la tragédie. La tragédie, c'est tout ce qui fait qu'on pleure sans se rendre compte. On pleure, on crie, on a l'impression que nos prières ne montent même pas au ciel. On est seul, incompris. La tragédie. Les quatre porteurs de la tragédie. Voici quatre personnes. La Bible nous révèle dans ce texte quatre personnes qui ont décidé de porter sur un brancard jusqu'à aller où Jésus se trouvait. un paralysé, quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer, quelqu'un qui ne pouvait pas faire ce que les autres faisaient. Un monsieur, certainement, qui avait des projets, qui avait de l'ambition, qui avait une grande destinée, mais il était paralysé, assis ou du moins couché sur un brancard. Les quatre personnes ont décidé de porter ce paralysé-là. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont partis, voyant la foule, il y avait une foule, quand Jésus se déplaçait, une foule immense l'entourait. Parce que les gens venaient, par curiosité, voir qui est Jésus. Les gens venaient pour obtenir la nourriture parce que Jésus multipliait les pains et les poissons. Les gens venaient parce qu'ils souffraient dans le corps pour que Jésus apporte la guérison. Les gens venaient parce qu'ils étaient possédés des oppressions démoniaques et sataniques pour que Jésus apporte la délivrance. Donc, il y avait différentes catégories de personnes et qui suivaient Jésus. Une foule immense. Les gens venaient du Liban, de la Syrie, de l'Égypte, des pays qui environnaient Israël pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Une foule immense. La Bible ne dit pas une foule, mais la Bible dit une foule immense. Les gens qu'on ne pouvait pas dénombrer. Et les quatre personnes, voyant la foule devant eux, bien aimés, la tragédie est toujours confrontée à deux choses. La tragédie, dans la vie d'une personne, est confrontée à deux choses. Les difficultés, la sécheresse financière, le manque de travail, l'instabilité, les difficultés dans le couple. Les problèmes ici, par là, croise toujours deux sortes de murs. Alors, ces personnes ont vu la foule. Une foule immense qui représentait un mur. Le premier mur que croise la tragédie. Alléluia. Alléluia. Premier mur. Et il y aura aussi un deuxième mur. Ils sont confrontés à la foule. Parce que la foule, chacun vient pour son problème. Chacun est accompagné certainement de son malade. Et les quatre personnes ont leur malade. On dit les paralysés couchés sur un brancard. Les gens sont là depuis 2h du matin. Certains depuis 1h du matin. Et les quatre personnes arrivent avec le malade, il est aux environs de 10h. Qui va te laisser passer avant lui? Nous tous, on est là pour la même cause, pour le même problème. Certainement, les quatre personnes ont voulu toucher le cœur de certaines personnes dans la foule, leur disant, vous voyez se paralyser, il souffre, s'il vous plaît. Faites-nous de la place pour qu'on puisse voir le maître, pour qu'il prie pour lui. Et vous savez ce qu'on a répondu? Votre malade est-il plus important que nous, notre malade qui est couché ici? Vous avez votre malade, nous aussi on a notre malade. Alors, pour quelle raison nous allons vous laisser passer avant nous? Certainement, ils ont touché l'autre personne pour dire, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît, cède-nous ta place. Il dit, mais moi j'ai le cancer, lui il est paralysé. En quoi est-ce que sa maladie est mieux que ma maladie? Nous tous, on est là pour le même problème. Mes amis, ne me déconcentrez pas. Donc, ils étaient confrontés à une difficulté très sérieuse. Les quatre personnes pouvaient faire demi-tour pour dire, mais c'est impossible d'entrer dans cette foule jusqu'à aller voir Jésus. Donc, le premier point, le premier obstacle que croise la tragédie, c'est la difficulté. Oh, vous savez quelque chose. Sinon, je vous dis quelque chose. Quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il permet des difficultés. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il permet des difficultés. Maintenant, à toi de discerner. Tu souffres. Tant bien même que la tragédie est dans ta vie, et tu crois encore des obstacles devant toi. Tu frappes personne, ouf. Tu as l'impression que ton visage ne plaît à personne. Ou partout où tu passes, tu entraînes une certaine malédiction. Tu croises des difficultés en plus de ton insomnie, en plus de tes difficultés financières, en plus de l'instabilité, en plus qu'on te rejette, en plus qu'on ne te considère pas. Tu croises encore dans la vie de tous les jours des difficultés. Koromosata. Le monsieur est paralysé. C'est un poids. C'est comme une carie dans la bouche de ces quatre personnes. Et en plus, on ne veut pas le laisser passer. C'est comme le paralysé n'avait pas d'importance. Personne n'avait compassion de cet homme couché.
Tu as l'impression que personne n'a compassion de toi. Personne ne peut te comprendre. Toi seul connais ta tragédie. Toi seul sais de quoi tu souffres. Même ton voisin ne peut pas te comprendre. Tu vas pas expliquer. Personne ne peut ressentir la douleur que tu ressens. Personne ne peut ressentir les pleurs que tu ressens. Toi seul connais l'intensité et la douleur de ta tragédie. Alors fallait-il qu'ils pensent ou fallait-il qu'ils disent, on se retourne, c'est impossible, on se retourne. On se retourne, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, ils vont monter sous le toit. Or, la maison où Jésus était ne les appartenait pas. Cette maison-là était celle d'une personne qui a accepté de recevoir Jésus dans sa maison, dîner ou manger avec Jésus. Et quand les gens ont appris que Jésus est dans telle maison, ils sont venus nombreux, une foule immense. Donc, les quatre personnes devant la difficulté, c'est ça. Si tu vois une difficulté, parce que la difficulté n'est que la première étape de la tragédie. Si tu vois la première étape, tu fais marche arrière, tu recules. Comment Dieu verra en toi un battant? Comment Dieu verra en toi une battante? Comment Dieu verra en toi un soldat? Si tu vois la première difficulté, tu fais marche arrière. Devant la première difficulté. Mais regardez le témoignage de ces quatre personnes-là. Parce qu'en réalité, écoutez quelque chose. Est-ce qu'une amitié peut permettre à des gens de prendre des risques jusqu'à ce point-là? Même si c'est mon ami, mais il y a des limites. Parce que le monsieur est paralysé. Vous savez, avant, il y avait aussi la justice. Hein? Ce n'est pas maintenant que la justice est mise sur pied. Avant, il y avait la justice. Le monsieur, on dit, il est paralysé. Vous ne savez pas son poids, parce que la Bible ne dit pas son poids. Mais je vous dis quelque chose. Quand on dit un monsieur est paralysé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est chétif ou quelqu'un qui ne mange pas. Un monsieur qui pèse au moins 120 kilos peut être paralysé. Donc la Bible ne dit pas son poids. Donc prendre un paralysé sur un brancard d'une commune à une autre, d'une ville à une autre, c'est un risque. Parce que non seulement il peut tomber et se faire encore plus mal. Deuxième difficulté, sinon, deuxième, comment je peux appeler ça? Risque, c'est qu'il y avait la foule. Rentrer dans une foule, il y a la poussière. Avant, il n'y avait pas de route bitumée comme aujourd'hui. La poussière, le monsieur a couché sur le brancard. La poussière, il ne peut même pas lever son bras pour faire comme ça. La poussière rentre dans ses narines, ça peut l'étouffer. La chaleur de cette foule immense peut l'étouffer. Les gens, sans s'en rendre compte, peuvent le piétiner parce que chacun veut aller voir Jésus. Donc, c'est un risque. Donc, prendre ce risque-là, parce que c'est un ami, non. C'était au-delà de l'amitié. Certainement, comme je l'ai dit, cet homme-là, de son bien portant, pendant un temps de sa vie, alors qu'il était encore bien portant, certainement qu'il a eu à sauver la vie de ces quatre personnes-là. Donc, ces quatre personnes-là se sentaient redevables à cet homme. Certainement que lui aussi, à un moment donné de sa vie, il a pris un risque pour ces quatre personnes. Alors, aujourd'hui, malade, ces quatre personnes se sont dit, cet homme-là, on ne l'abandonnera pas. C'est plus que de l'amitié, c'est une redevance. Ils doivent leur vie à cet homme. Ils se sont dit, nous allons prendre des risques, même s'il faut qu'on périsse, on périra. Mais on ira jusqu'à ce que cet homme-là soit guéri, parce qu'on lui doit la vie. Alléluia. Alors, ils ont pris ce risque-là. Éliminer cet homme-là, c'est s'éliminer eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu ne réussis pas, parce que devant une difficulté, tu as fait marche arrière, c'est t'auto-détruire toi-même. C'est pourquoi quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, c'est difficile que l'onction de Dieu impacte sa vie. Quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui pense que jamais il va se marier parce qu'elle est femme et parce que personne ne lui dit bonjour et parce que les difficultés sont là, alors on croit que personne ne va frapper à ta porte et tu te dis, c'est fini pour moi, je suis malheureux, je suis malheureuse, je suis né dans une famille pauvre où la sorcellerie passe en plein, je sais que jamais je ne pourrai entreprendre quelque chose dans ce pays, je sais que personne ne pourra m'aider, c'est fini pour moi. C'est une personne qui ne s'aime pas. Oh, s'il ne t'aime pas, comment Dieu va impacter ta vie? La preuve que ces quatre personnes s'aimaient, aimaient leur tragédie. Parce que cet homme-là était une carie dans leur bouche. Ils aimaient leur tragédie. Il faut aimer la souffrance que tu vis. Parce que la souffrance, ça, c'est dans ton corps. Si tu te détestes parce que tu souffres, tu vas aller te suicider. Or, quelqu'un qui se suicide va directement à l'enfer. Il y a des gens tellement que ils se disent, ce qui m'arrive là, ça ne doit pas m'arriver, ça doit arriver aux autres. Et parce que ça m'arrive, je me donne la mort. Pourquoi c'est aux autres, ça doit arriver, que toi, ça ne doit pas t'arriver? Non. Il faut s'aimer. Je pleure, mais je m'aime. Je crie de douleur, mais je m'aime. Parce que David dit, Seigneur, merci, parce que je suis une belle créature que tu as créée. Alléluia, il faut s'aimer. Alléluia. Dans tes pleurs, il faut t'aimer. Dans ta faim, il faut t'aimer. Dans ta maladie, il faut t'aimer. Alléluia, aime ta personne, parce que tu es unique à ton genre. Dieu t'a créé seul. Dieu t'a créé. Tu ne ressembles à personne sur cette terre. Tu es unique à ton genre. Il faut t'aimer. Alléluia.
Tous ceux qui se détestent se donnent la mort. Tous ceux qui se détestent parce qu'ils vivent une tragédie ne peuvent pas avancer. Mais ces quatre personnes, tellement qu'ils aimaient la tragédie, le paralysé qui était couché, ils l'aimaient. Alors ils l'ont pris, sont montés avec lui sur le toit. Voyez le risque. Un monsieur qui pèse au moins 80 kilos ou 100 kilos, vous le prenez. Deux d'abord sont montés et les deux autres ont fait un effort pour prendre le brancard et le mettre en hauteur pour que les deux autres là tirent le brancard jusqu'à ce que le paralysé soit sous le toit. C'est un risque. Et si moins de mouvement, il tombe. Parce que les chrétiens qui ne veulent pas prendre des risques, ils veulent que tout soit préparé pour eux d'abord. Non. On dit viens jeûner, je ne pas. On dit viens prier, il dit non, ma couette est mieux. On dit viens à l'église, il dit non, il fait trop froid. Mais pendant que les autres prennent le risque, ils viennent, il fait froid, ils sont là. C'est difficile, mais ils sont là en train de jeûner. Ça, c'est un risque. Parce que le temps que tu passes à l'église, tu aurais pu passer ce temps ailleurs. Mais c'est un risque que tu sois là. Le risque ne te trahira pas. Alléluia. 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 Qui ne veut pas prendre des risques. Tout n'est qu'à être facile. Les escaliers n'ont qu'à être déjà dressés. Mais lui n'a qu'à marcher dessus. Il n'a qu'à marcher dessus. Tout est prêt, préparé. Lui vient, il passe comme un président. Même les chefs d'État, avant d'être président, ils souffrent d'abord. Prends un risque. Ils ont pris un risque pour ce monsieur-là. La tragédie, ils ont pris un risque. Ils sont montés sous le toit. Ils ont fait tout pour que le monsieur monte sur le toit. Et ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont percé le toit. Un toit qui ne les appartient pas. Une maison qui ne les appartient pas. Quelque chose qui ne les appartient pas. À cause de ce monsieur-là, de cette tragédie-là. Parce qu'il voulait que la tragédie se transforme en joie, en paix, en abondance, en gloire. Alors, ils prennent le risque. Au risque même qu'on les arrête pour les jeter en prison parce qu'ils sont en train de détruire le toit de quelqu'un. Au risque même qu'on les lapide. Parce que moi, le propriétaire, je vous vois avec mes quatre enfants. Je vous vois en train d'enlever les tuiles. Les tuiles que j'ai payées pour faire mon toit. Je vous vois enlever ces tuiles-là à cause d'un paralysé. Je vous dis d'abord, oh, vous faites quoi? Descendez. Ils ne m'écoutent pas. Ils continuent toujours à enlever mes tuiles. Mais je prends mon caillou ou je prends quelque chose qui tombe dans mes mains. Je dis à mes enfants, prenez. Comme ils sont sous le toit, on ne peut pas monter. Alors lapidons-les pour qu'ils quittent sous le toit. Alléluia. Ça, c'est un risque. Amen. Alléluia. 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 Cette terre-là, ça ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. Cette terre-là, c'est pas pour toi, c'est vrai. C'est pas pour toi. Mais prends le risque de dire, la terre me donnera les meilleures productions. Ce pays, c'est pas pour toi. Mais prends le risque pour dire, ce pays-là me donnera la meilleure production. Quand t'es lapide, quand on dit que tu es fou, c'est pas grave. Quand on se moque de toi, mais il faut prendre le risque de dire, mes millions-là vont sortir de ce pays-là. Ma gloire va sortir de ce pays. Mon abondance va sortir de ce pays. Alléluia. Ma renommée va sortir de ce pays.
Tous les Européens qui ont quitté l'Europe pour aller en Amérique, découvert par Christophe Colomb en 1492, ils ont pris un risque. Ce n'est que les Européens qui ont peuplé l'Amérique.
L'Amérique ne les appartient pas. Ils sont arrivés, ils ont possédé. Parce que ceux qui sont quittés ici étaient persécutés par l'Empire romain. Donc certains ont pris que la Bible pour lui. Et quand ils sont arrivés, l'histoire dit, certains se sont mis en genoux, dit au Seigneur, si tu me rends prospère, ce pays-là qui ne m'appartient pas, parce que les vrais autochtones sont les Indiens. Ce sont les Indiens. Et comme les Indiens n'ont pas vu la richesse de leur propre terre, d'autres personnes ont vu, ont possédé. Il y a des gens qui sont là, qui ne voient pas la gloire ici. Ils se disent que c'est ma terre, mais toi là, tu es là, prends possession. Prends le risque et prends possession. J'ai dit, prends le risque et prends possession. Alléluia. Alléluia. Le propriétaire criait, oh, descendez. Descendez, descendez. Ça rentre à l'oreille gauche. Ça rentre, ça sort à l'oreille droite. Satan crie, mais toi, tu es né d'une famille pauvre, tu ne deviendras jamais rien. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Toi, tu vieillis, tu ne te marieras jamais. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Oh, toi, tu es là, tu as 45 ans. C'est pas maintenant, tu vas commencer à chercher comme un jeune. C'est pas grave. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Alléluia! 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 La maison ne les appartenait pas. Mais ils ont creusé un trou. Parce que ça valait la peine de creuser le trou. Et la Bible déclare, quand ils ont descendu le paralysé aux yeux de tous, tout le monde a vu, tous ceux qui étaient dans la maison aux alentours ont su qu'il y a un paralysé qui sont en train de descendre depuis le plafond. Ils ont su. Ne cache pas ta tragédie. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Qu'on dise que tu es célibataire, n'aie pas honte. Qu'on dise que tu n'enfantes pas, n'aie pas honte. Que les gens le sachent à gauche, qu'ils le sachent à droite, n'aie pas honte. N'aie pas honte qu'on dise que tu ne travailles pas, n'aie pas honte. N'aie pas honte qu'on dise que tu es pauvre, n'aie pas honte. Que les gens le sachent à gauche, à droite, n'aie pas honte. Mais ta tragédie descend vers le maître. Ta tragédie, ta souffrance descend vers le maître. Ça descend. Alléluia. Le monsieur descendait pendant que les gens se moquaient. Le monsieur descendait pendant que les gens indexaient pour dire, le paralysé là, il veut quoi? Il croit quoi? Cette femme elle croit quoi? Elle pense quoi? Elle dit quoi? Mais laisse tomber. Toi, rentre à gauche, ça soit à droite. Ça rentre à l'oreille gauche, ça soit à l'oreille droite. Alléluia. Parce que ta vie est en train de descendre. Ta vie descend. Ta vie est descendante. Elle descend. Elle descend. Quand le paralysé, il est descendu. Quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, mon fils, tu viens de vaincre le deuxième principe. Tu as vaincu les difficultés qui étaient la foule. Maintenant, tu viens de vaincre un deuxième élément, l'impossibilité. Parce que tu viens de vaincre l'impossibilité, je ferai de ta vie une vie extraordinaire. Une vie surnaturelle. Quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il permet les difficultés. Mais quand il veut faire des choses extraordinaires, il permet l'impossibilité dans ta vie. Là où j'ai vaincu l'impossibilité, c'est que, un, la maison ne les appartient pas. De deux, prends le risque pour aller sous le toit. De trois, percer le plafond de quelqu'un que tu ne connais pas. Frère, bien-aimé, c'est un obstacle impossible. Mais eux, ils ont vaincu l'impossibilité. C'est pourquoi Dieu a fait de la vie de cet homme une vie extraordinaire. Aussi longtemps que la Bible existera, on parlera toujours de cet homme-là. Aussi longtemps que toi, tu vas vaincre l'impossibilité, tu deviendras célèbre. On parlera de toi. Ton témoignage ira, dépassera les frontières de la Suisse. On parlera de toi partout dans ton pays. On parlera de toi. On dira, cette femme
est parti de rien. Cet homme est parti de rien. Il a commencé avec rien. Il est devenu grand. Elle est devenue grande. Oui, tu as vaincu l'impossibilité. Là où les hommes font marche arrière, toi tu as foncé. Là où les gens disent c'est difficile, toi tu as foncé. Alléluia, tu as vaincu l'impossibilité. Tu as vaincu les difficultés. Alors ton Dieu rendra ton nom grand. Il fera de toi une femme championne. Il fera de toi une personne extraordinaire. Dans le spirituel, le diable saura qui tu es. Les sorciers sauront qui tu es. Les démons sauront qui tu es. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as vécu l'impossibilité, parce que tu as vécu les difficultés. Quand le diable te voit, quand les sorciers te voient, ils disent, allons partout, allons à gauche, allons à droite, mais celui-là, laissons-le en paix, parce que son front est trop dur, 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 laissons-le en paix, n'allons pas chez lui, n'allons pas en mission chez lui. Cette femme-là, on a tout fait, on a essayé partout. N'allons pas en mission chez elle. Elle est trop dure. Elle est trop dure, cette femme-là. Non, n'allons pas en mission chez elle. Allons là. Allons à gauche. Allons à droite. Mais cette femme-là, n'allons pas. Parce qu'elle a vécu les difficultés. Elle a vécu l'impossibilité. Alléluia.
Nous allons passer au deuxième message.